Question d'un élève anonyme qui ne veut pas être victime d'avoir dit son nom sur Internet. Demande, que faire lorsque les mères prennent trop d'importance dans la vie de leur fils ou de leur fille, ou veulent prendre trop d'importance? Le cinquième des 10 commandements dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Comme on a déjà dit dernièrement ici, la barre est très très haute. Une exigence énorme. Un point tel que Rabbi Yochanan a dit dans la Gemara, heureux sont les orphelins. Tellement l'exigence elle est haute, à quel point, comme le Ben Yishraï, personne, même un jour de sa vie, n'arrive pas à réaliser suffisamment cette mitzvah d'honorer son père et sa mère. Donc il est clair qu'il faut beaucoup les honorer, beaucoup les respecter. Mais, il y a une loi dans la Torah qui dit, il y avait un rabbin, Remetzia, c'est écrit cette discussion, qui disait que s'il y a deux personnes dans le désert, ils n'ont plus qu'une seule gourde, insuffisante pour les deux, pour arriver à un endroit habité où il y a de l'eau. Donc c'est ou toi ou moi, on fait moitié-moitié et c'est personne d'entre nous. Le rabbin a dit moitié-moitié, pour pas que tu sois l'assassin de l'autre. C'est ce que Rabbi Akiva est venu, a dit non. Il amène une preuve des versets, « Chayecha kodmin », ta vie passe avant. Et ça c'est une loi qu'il faut savoir. Ma vie passe avant. Je n'ai pas le droit de perdre ma vie pour sauver la vie d'un autre. Il y a une discussion, est-ce que j'ai obligation de rentrer dans un danger de vie ou de mort? Ce n'est pas certain que je vais mourir. Il y a un doute que peut-être je vais mourir. Pour sauver quelqu'un d'un danger de vie ou de mort? C'est une discussion, personne n'a tranché clairement. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Si, et on va dire c'est 50 maintenant, 50-50, il y a 50% de chances que je meure, 50% que je vive, et 50% qu'en y allant, je vais le sauver. Est-ce que je dois maintenant rentrer dans ce risque ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais si maintenant il s'agit clairement de lui ou moi, c'est moi d'abord. Ma vie passe avant. Donc celui qui pose la gourde, il la garde, et dit, mon cher ami, les rabbins, Rabbi Akiva a déjà tranché, je peux faire autrement, je la garde, et tant pis pour toi, je dirai à ta famille que tu étais un bon garçon. D'accord? Cela concerne aussi la mitzvah très grave de Kibbud Av V'Em. Donc on doit énormément honorer et respecter nos parents, mais il y a une limite. Quand les parents commencent à me détruire. Et il y a des parents pour qui c'est très difficile de comprendre que leurs enfants ne sont pas leur propriété, que les parents sont là pour donner vie aux enfants, ce n'est pas qu'une vie génétique, physique, c'est leur permettre de se développer, grandir. Et quand ils ont grandi, eh ben, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est comme un horticulteur qui fait pousser sa fleur et elle grandit, puis dès qu'elle est vraiment bien, quelqu'un, un étranger vient, l'accueille et part. C'est exactement ça, d'accord? Une mère, elle a fait grandir son enfant, elle a éduqué, elle s'en est occupée, elle s'est inquiétée, elle a pleuré, elle a prié, elle a tout ce que tu veux. Il a 22 ans, vient une petite fille qu'on ne sait pas d'où elle vient, elle fait trac trac avec les cheveux, t'es mignon, machin, hop, c'est ton panneau, bye bye maman, et moi. Et ça s'entend. La fille la connaît depuis 2 semaines, moi je suis sa mère depuis 20 ans, et comme ça, j'existe plus. Il est complètement, elle l'a ensorcelé. J'exagère, c'est pas toujours comme ça. Mais très souvent, les parents ne comprennent pas. Or, la Torah dit très clairement, dans Bereshit, la création de l'homme et la femme, Dieu crée la femme à l'homme, et dit, et je pense que ce verset-là, c'est un avertissement aux parents, spécialement aux mères, « Alken yazov ish et aviv ve'imo » C'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère, Vedavak beishto, il s'unira, il se collera à sa femme, bayou le basar echad, ils ne formeront qu'une seule chair. Cher papa, chère maman, je vous suis très reconnaissant. J'ai beaucoup de respect pour vous, vous serez toujours mon papa et ma maman. Mais maintenant, j'ai ma vie avec ma femme. Il faut savoir pouvoir dire à la mère, avec tout le respect, je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux, chas et shalom, à Dieu ne plaise, on reste très respectueux, mais bien mettre les limites. La vie avec ma femme ne concerne pas mes parents. Je crois que je ne me trompe pas en disant que la majorité des cas de divorce proviennent à cause des belles-mères. Quand la mère, pour le bien du couple, se mêle, d'habitude elle n'aime pas tellement sa belle-fille, c'est très souvent le cas, c'est normal. Une mère, elle veut le bien de son fils, elle a un regard critique sur sa belle-fille, comment elle fait la cuisine, comment elle s'apprête, comment elle s'occupe des enfants, comment elle range la maison. Alors quand elle va visiter la belle-fille, elle sent qu'elle va être maintenant critique, elle essaie de tout soit le plus ok possible, elle est déjà tremblante, vient la belle-mère qui regarde tout, et s'il y a un truc qui ne va pas, ou elle le dit, manque de savoir-vivre total, tais-toi, belle-mère, tais-toi, d'accord. Ou elle lui a son fils, après tu sais, j'ai vu ta fille, et déjà, pour façon de couple, c'est pas facile déjà, et maintenant elle commence à faire du lachonara, etc., etc., et le garçon, il commence à se dire, oui, peut-être que non, peut-être, il commence, et elle sème la zizanie entre le garçon, c'est très, très, très grave. Lorsque j'ai marié ma première fille, le père de mon chatin, de mon gendre, qui avait marié déjà plusieurs enfants, il m'a dit, il y a un truc que j'ai appris. Des fois, on voit des choses, ça fait mal. Tu vois, mais ils ne se comportent pas comme il faut. Ils font des trucs pas bien. C'est bien pour dire. On ne dit rien. Nous, quand on s'est mariés, on n'était pas parfaits. Il faut laisser les gens faire leur propre expérience. Tu peux peut-être très délicatement suggérer encore, je ne sais même pas. On ne dit rien, on ne se mêle pas. Le gosse appelle sa maman, « Maman, qu'est-ce que tu penses avec ma femme comme si ?»« Mon fils, je ne veux pas me mêler de ça. » Que la mère ne se mêle pas, elle va se créer un ennemi, sa belle-fille. Déjà, il y a une présomption naturelle. La Gemara, elle dit qu'une mère, elle aime beaucoup son premier gendre. Elle déteste sa belle-fille. Il y a la Gemara qui dit comme ça, c'est dans Hérouvine, qui dit comme ça. Hein. Hérouvine, ce sont les cours communes. On a une cour, à l'époque ils habitaient dans une cour, il y avait 3-4 maisons qui habitaient et qui utilisaient la même cour. Cette cour, du point de vue de la Torah, c'est un rachut ayahid, un domaine privé. On peut transporter des objets dans cette cour, dans la cour elle-même, et des bâtiments dans la cour. Mais Rabbanan, les Rabbans ont fait un décret. Étant donné que ça appartient à plusieurs personnes, ça ressemble un peu à un domaine public. Donc il faut faire un hérouv. C'est quoi un hérouv? On prend un pique-nique, un peu de pain, un peu de quelque chose, et on dit voilà, ça c'est notre repas commun, ça fait que si on n'est qu'une seule famille, on est tous, en fait, on n'est qu'un seul. Et où signifie mélanger, on se mélange tous ensemble, et on est maintenant, on forme plus qu'une seule entité. Donc c'est plus un domaine public, c'est un domaine privé. Donc qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il part Shabbat? Il ne va pas manger de ce repas-là. Sa place maintenant, quelque part, il y a tout, on va dire, il y a 4 familles. 3 familles vont rester. Eux, ils s'unissent ensemble pour le repas. Et ils ne vont pas manger tous ensemble. C'est un repas symbolique. Et quelque part, on le pose au-dessus du frigidaire, d'accord. Quelque part, ce repas existe. Néanmoins, les trois forment une seule entité. Et lui, vu qu'il n'est pas là, il ne mange pas avec eux. Son appartement, maintenant, il fait écran. Ça veut dire qu'ici, il y a deux propriétés. La propriété des 3 familles et sa propriété. Et ça ne va pas, il faut qu'il n'y ait qu'une seule propriété. Avant de partir, il doit faire un bitoul reshout. Bitoul reshout, c'est qu'il doit annuler son domaine. J'annule mon domaine, à vous. C'est comme si je ne suis pas là. Mais attention, si tu annules, c'est annulé pour tout le Shabbat. La Lacha dit, il y a un cas où ce n'est pas valable. Si le propriétaire va passer Shabbat chez ses parents. Si le propriétaire va passer Shabbat chez ses parents, l'annulation qu'il fait de son domaine n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'une présomption, une chazaka, on est presque certain qu'au milieu du Shabbat, il revient. Pourquoi? Parce que sa femme s'est engueulée avec sa belle-mère et ça fait une histoire et ils sont revenus au milieu du Shabbat. Parce que la Gemara dit, de façon naturelle, la mère n'aime pas sa belle-fille. Elle est critique, elle dit rien, mais elle a un regard critique. Si ce n'est pas une femme qui a une grandeur d'âme, qui sait se taire, qui sait accepter, qui sait laisser les autres... Toi aussi, un beau jour, tu étais une nouvelle cala et tu n'as pas repassé la chemise le mieux qu'il fallait, tu as raté un peu ta soupe, ça arrive, ok, laisse-la vivre, laissez-les vivre. Les mères qui se mêlent des affaires de leurs enfants, c'est une calamité. Mais c'est pour son bien, moi je l'aime, c'est vrai, et je pleure, et je veux que son bien... Mais oui, la Gemara, elle dit, pas la Gemara, la Torah, elle dit dans les malédictions, il y aura une famine terrible. Dieu, dans la malédiction, dit qu'il y aura la guerre, et il y aura un siège dans les villes dans lesquelles tu seras, il y aura une famine terrible, un point tel que les mères miséricordieuses cuiront leurs propres enfants. Elles vont cuire leur enfant pour le manger, manger sa chair. C'est une malédiction de la Torah, dans Deutéronome 28, ou Berakhotai, que une mère qui est tellement miséricordieuse, elle met tellement ses enfants, même elle va arriver à un point de faim tellement grand qu'elle va prendre son gosse, elle va le mettre dans la casserole pour le bouillir et pour le manger. Terrible comme malédiction. Alors on dit, en allégorie, on dit, les mères miséricordieuses, elles cuisent leur enfant. Elle veut aider son enfant, elle est miséricordieuse, elle va, elle le cuit, elle le boule, elle est en train de le tuer. Il faut apprendre à se taire. On ne parle, les parents ne se mêlent pas des affaires de couple de leurs enfants, en aucun cas. Et quand un mari se trouve entre, quelqu'un m'a plus dernièrement, entre le marteau et l'enclume, sa femme et sa mère, il doit dire à la mère, bien que il n'y a pas de mission de respect de sa femme, il n'y a pas dans la Torah mission de respect de sa femme, d'accord ? Elle respecte ses parents. Néanmoins, il y a une histoire de vivre. Et moi, je dois maintenant vivre en shalom, en paix avec ma femme. Et entre le choix entre ma femme et ma mère, bah, c'est ma femme qui passe avant. Pas que je dois envoyer balader ma mère, à ce shalom. Tout respectueux, mais respectueusement, mais clairement. Maman, je t'aime beaucoup, je te respecte, j'aime parler avec toi, j'écoute tes conseils, mais en ce qui concerne ma vie de couple, c'est fini, tu ne peux pas me parler. Comprends que ça va bousiller mon couple. Je n'ai pas le droit de t'écouter. La Torah m'interdit de t'écouter. Sois très très clair. Beaucoup de couples souffrent de cela terriblement. Oui.
Ça vous dites par rapport au couple, vis-à-vis des enfants qui partent en voyage
Aussi. Des fois, il y a la notion de mère poule, d'accord. Mais il faut laisser pousser les enfants, laisser leur faire leur expérience, il faut leur donner confiance aussi. Quand tu ne donnes pas confiance à un enfant, tu ne laisses rien faire. Au bout d'un moment, il n'a aucune confiance en lui-même. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Il y a des gens de 30 ans qui sont encore dans les jupons de leur mère. Ça va. Sors. Il faut que les mères comprennent le but, c'est pas leur... Qu'est-ce qui se passe? La mère n'aime pas son enfant. Le sentiment terrible d'amour, tellement grand qu'elle a pour son enfant, c'est un sentiment... Comment expliquer cela? Le sentiment qu'elle a d'amour pour ses enfants, qui est un sentiment extrêmement puissant, des fois, il est mal dirigé. Parce que la raison dicte que là, maintenant, c'est déjà faux. Néanmoins, elle n'arrive pas à faire ce que pourrait lui dicter la raison. Elle pense que c'est par amour, parce que ça provient d'un sentiment amoureux, mais en fait, le but n'est pas le bien de l'enfant. Le but, c'est qu'elle a un sentiment. Et si elle ne va pas maintenant laisser son sentiment s'exprimer, elle souffre. Donc elle veut le bien de son enfant ou son propre bien à elle? Son propre bien à elle. De l'enfant, elle n'en a rien à faire. Parce que c'est mauvais ce qu'elle fait. C'est mauvais. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Il y a aimé, normalement, il y a trop. Trop, ça veut dire je l'aime trop. Ça veut dire, je sais que c'est trop, c'est pas bien pour lui, mais je ne peux pas me retenir. Donc en fait, tu le hais. Elle appelle ça de l'amour, mais c'est de la haine. Parce qu'elle fait du mal à l'enfant, au nom de l'amour. C'est un sentiment égoïste. Légitimé, soi-disant, par la mitzvah de Kibbout Av V'Em, qui est complètement faux. C'est faux. C'est pas ce que Dieu veut. C'est du mensonge. Dieu veut que tu aimes, c'est quoi aimer? Faire ce qui est bien pour lui. Ah, mais c'est dur pour moi de le laisser partir. Mais c'est bien pour lui. Le but, c'est toi ou le but, c'est lui?